Pierre Gibert, vous êtes jésuite, exégète, poète. Comment est-ce que vous aimez qu'on vous définisse?
Je dirais d'abord comme jésuite, quand même. C'est mon état de vie et puis aussi, pour une part, mon bonheur de vivre, je le dis simplement. Et puis exégète, et c'est mon métier. Encore que j'aime bien préciser qu'en m'amusant, je dis toujours, je suis tombé dedans petit, puisque mon premier émerveillement, ça a été mon histoire sainte. J'avais 6 ans. À l'époque, on apprenait à lire et à écrire à 5 ans. Donc à 6 ans, je suis mis devant un livre d'histoire et un livre d'histoire sainte. Et je garde un souvenir, mais très fort, de ce premier moment. Et j'ai envie de dire, mais pas du tout par sentimentalité, parce que je crois que c'est vrai quelque part, que je suis devenu exégète. En tout cas, j'ai été mis sur la voie dès ce moment-là, quoi. Et je n'ai pas lâché la Bible, la Bible ne m'a pas lâché jusqu'à ce que je me mette sérieusement au travail.
Vous avez été fasciné par la Bible, par une histoire sur la Bible.
Mais c'était en fait des morceaux choisis de la Bible, en réalité. C'était des récits. C'était l'histoire sainte, c'est-à-dire que on nous racontait l'histoire d'Ésaü et de Jacob, l'histoire d'Adam et Ève, évidemment, de Moïse, de Joseph vendu par ses frères, et ainsi de suite, jusqu'au Christ.
Et alors vous dites, la Bible vous a plus quitté. Comment est-ce qu'elle vous a tenu par la main?
Je ne sais pas. Elle m'a tenu par la main parce que j'étais dedans. Je ne peux pas mieux vous dire. Ça m'intéressait, même quelque part, ça me passionnait. Et quand je me remémore mes années d'enfance, de collège, et puis ensuite... Alors c'est vrai, je suis rentré au grand séminaire avant de rentrer dans la compagnie où j'ai trouvé un homme merveilleux. Alors là, qui m'a conforté dans ma vocation, ma future vocation d'exégète, si j'ose dire, le père Roger Ricard. Et là, alors là, j'ai été confirmé à 18 ans de cette intuition que j'avais depuis mon enfance, ma petite enfance. C'est comme ça que ça s'est passé.
Alors, qu'est-ce que fait un exégète ?
Un exégète, c'est quelqu'un qui essaie de saisir la vérité de la Bible et surtout de résoudre les difficultés. Parce que la Bible est un livre difficile, il faut le dire. C'est un livre difficile. Un livre qui a des contradictions, qui a apparemment des incohérences, qui est très varié, qui raconte des histoires tantôt extraordinaires, miraculeuses, on dira merveilleuses, tantôt des histoires assez dures. C'est une histoire d'humanité, quoi, d'abord ça. Et là, quand on est affronté à ce thème, et auquel on vient souvent, et moi je me heurte souvent à ce malentendu. Beaucoup de gens viennent à ce texte comme un texte sacré qui ne peut dire que de bons enseignements, que des vérités. Or c'est d'abord l'histoire de notre humanité qui essaie de rencontrer, de trouver Dieu, qui se manque avec lui. C'est ça qui est d'abord raconté.
Alors quand vous dites l'histoire de notre humanité, qu'est-ce que vous entendez ?
Mais je dirais l'humanité d'abord dans ce qu'elle a de plus ordinaire, parce que quand on regarde les héros de la Bible, c'est vrai qu'il y a des héros extraordinaires qui vont faire des miracles, qui vont voir Dieu, qui auront des apparitions, qui feront des prodiges. Mais quand on regarde l'humanité, et dès les premiers chapitres, quand on dit, on parle de nos premiers parents, quand on parle de la première fratrie, mais qu'est-ce que c'est que ce premier homme et cette première femme? Quelqu'un qui ressemble étrangement à ce que nous sommes et à ce que nous faisons. Et quant à la première fratrie, pas plus tard qu'hier, j'ai été amusé et en même temps conforté, si j'ose dire, par une maman qui me disait que lorsqu'on avait demandé à son fils aîné qui avait 8 ou 9 ans quel était le récit de la Bible qu'il retenait le mieux, il a dit l'histoire de Caïn et d'Abel. C'était un aîné, et il y avait un petit cadet, et il savait très bien ce que ce texte voulait dire. Ce n'était pas une vieille histoire, c'était son histoire. Donc c'est ça, la Bible. Je dirais que c'est d'abord un livre d'humanité, en quête de Dieu, évidemment, ou Dieu en quête de l'homme.
Votre but dans ce métier d'exégète a été souvent de confronter la Bible et l'histoire biblique.
Tout à fait. Mais c'est-à-dire, je crois qu'il faut accepter que la Bible est avant tout une œuvre d'histoire et d'historien. Ça ne veut pas dire que tout est vrai historiquement, c'est une autre question. Il faut bien distinguer la vérité historique et ce que j'appelle l'esprit historien. La Bible est un livre d'histoire qui a été fait par des historiens, selon l'histoire qu'on faisait à leur époque, mais qui avait un souci de dire la vérité historique avec les moyens qu'ils avaient. Et mon Dieu, dans l'Antiquité, on le sait, c'est pour les Grecs, c'est pour les Romains, c'est pareil, dans l'histoire se mêlaient les légendes, voire des contes, voire des mythes, beaucoup de choses. Mais il ne faut pas oublier que le fond biblique, c'est un fond historique, un fond d'histoire, un fond d'historien, y compris dans les évangiles, évidemment.
Alors vous nous dites un livre historique, mais alors la question qui vient tout de suite, c'est la Genèse, au commencement.
Au commencement. Eh bien, au commencement, il faut savoir qu'on n'atteint jamais le commencement. Donc, le commencement, comme j'aime à le répéter, est toujours raconté après coup. Autrement dit, on ne peut parler du commencement, des origines, que si on a suffisamment vécu, que si on a eu suffisamment d'expérience ou de conscience de soi. On écrit, je dis en manière de boutade, on n'écrit pas ses mémoires quand on a 5 ans, quand on a 8 ans. On parle de son enfance quand on a 70 ans, quand on a 80 ans, avec tous les défauts de la mémoire, en l'occurrence, ou bien les partis pris, etc. Ben, je dirais en histoire, c'est pareil. On écrit l'histoire des commencements d'une nation, d'une religion, d'un peuple, quand cette nation, ce peuple, cette religion sont développées et qu'on a besoin de retrouver les commencements. Mais personne ne peut dire « je suis le commencement de quelque chose ». Tout récit de commencement, toute histoire de commencement, comme je dis, c'est une histoire seconde. C'est quelque chose qui est écrit après coup.
Justement, la Genèse n'est quand même pas un récit historique.
Non, au sens strict du mot, non. Ça n'est pas un récit historique. Mais c'est un récit qu'on a voulu faire rentrer dans un projet historien, dans un projet d'histoire. C'est-à-dire que ceux qui ont élaboré ces textes, qui sont multiples, qui se contredisent d'ailleurs, même, bon, peu importe, mais ceux qui ont élaboré ces textes, ils avaient volonté de donner le commencement de l'histoire, de donner un commencement à l'histoire. En fait, ils en ont donné plusieurs.
Un commencement qui est à la fois un commencement de Dieu et un commencement de l'homme.
Tout à fait. C'est la rencontre, je dirais, de Dieu et de l'homme dans la création, avec tout ce que cela comporte, évidemment, d'abord de foi et de théologie, et puis aussi ce que cela comporte de connaissance de l'époque. Ces textes sont des textes très anciens, c'est des textes qui ont été écrits entre, mettons, le 8e et le 5e siècle avant notre ère, donc à une époque où les connaissances que nous pouvions avoir, ou les déductions que nous pouvions faire sur le commencement, n'ont rien à voir, évidemment, avec les sciences d'aujourd'hui. Il est bien clair que les sciences d'aujourd'hui disent d'autres commencements qui sont plus scientifiques, qui ne veut pas dire qu'on était là quand ça s'est passé. Enfin, on a des moyens aujourd'hui de connaissances qu'on n'avait pas à l'époque.
À quelle question l'auteur de la Genèse veut-il répondre ?
Ben, il veut répondre d'abord à la question « d'où venons-nous et qui sommes-nous ? » Et la réponse qu'il donne, eh bien, nous venons de Dieu et de la volonté de Dieu, c'est ça. C'est d'abord, je dirais, au grand sens du mot, une réponse de foi. Faites avec les connaissances de l'époque, avec un certain nombre de connaissances qui tenaient à l'observation. Mais c'est à ça qu'il veut répondre. D'où est-ce que nous venons ? Eh bien, nous venons de Dieu.
Vous avez aussi écrit un livre qui n'est pas du tout en rapport avec la Bible, qui est en rapport avec votre expérience en Algérie.
Il ne se passe rien en Algérie, oui, parce que, bon, je suis comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai dû participer à cette guerre qu'on ne nommait pas. Longtemps, je suis resté silencieux, comme tous les gens de ma génération. On a voulu en parler quelquefois au retour, on ne nous a pas écoutés, on ne nous a pas entendus, et nous nous sommes enfermés dans un silence parce qu'il y avait des choses trop lourdes à porter. Il m'a fallu, je crois, quelque chose comme 35 ans pour qu'un jour, je puisse mettre par écrit. C'est un livre que j'ai écrit pratiquement la nuit. Je me levais à 3h du matin, j'écrivais une demi-heure. C'est une étape de ma vie qui a été très dure à 20 ans, vous savez, à 21 ans, quand on a ces expériences-là. Je ne dis pas qu'on ne s'en remet pas, il ne faut pas dramatiser. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont été plus éprouvés que moi. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Enfin, en tout cas, qui est là un peu comme un stigmate ou comme une cicatrice. Enfin.
Une expérience dans laquelle vous avez connu, bien évidemment, beaucoup de moments de ténèbres, mais aussi vous racontez des moments de lumière.
Oui, c'est vrai, il y a ténèbres et lumière. C'est vrai qu'il y a eu pour moi une expérience, là aussi, de l'écriture. La Bible, je l'avais toujours dans ma Bible de poche. J'avais ça dans ma tenue de combat, dans des poches profondes. Je suis toujours sorti avec la Bible, en me disant, on ne sait jamais. Et c'est vrai que cette Bible, quelquefois, m'a accompagné pendant cette guerre, c'est vrai. Je dirais, quelquefois, avec défi. J'ai des souvenirs très forts, en disant, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu nous as dit à travers tout ça ? Et puis, elle était toujours là.
Aujourd'hui, après tant d'années d'études de la Bible, quels sont les personnages bibliques avec lesquels vous vous sentez très en affinité ?
Très en affinité, celui qui me vient en premier, j'arrête pas de réfléchir sur lui, sur son aventure, surtout la deuxième partie de son aventure, c'est le prophète Élie. C'est un personnage absolument étonnant, qui commence dans la légende, c'est presque un hâbleur, il fait tout et n'importe quoi. Bon, et puis tout à coup, cet homme est pris de doute sur lui-même, sur sa mission, il désire même mourir, il veut se laisser mourir d'ailleurs. Et puis on lui dit, il faut repartir. Et ce personnage m'a toujours fasciné. Et je suis toujours intrigué par ces 40 jours de marche dans le désert d'Élie. À quoi a-t-il pu penser ? Qu'est-ce qu'il ruminait ? Et puis aussi cet homme qui s'affronte à Dieu, puisque surtout il va arriver à l'Horeb. Il va va faire l'expérience des trois grandes images de Dieu de l'Ancien Testament. Et il ne bronche pas, ça l'impressionne plus. C'est, j'allais dire, un exégète avant la lettre, quoi. Il peut dire à Dieu, écoute, tu peux me présenter tout ce que tu veux, ça m'impressionne pas, je connais ça, je peux l'étudier. Bon, c'est moi qui traduis, hein. Et puis, tout à coup, il rencontre Dieu dans... Alors, le mot est très difficile à traduire en hébreu, on traduit comme on peut en français. Il rencontre Dieu dans l'impalpable, dans l'insaisissable. Et c'est à ce moment-là, dans le rien, on pourrait presque dire. Et à ce moment-là, il se voile la face et il entend Dieu. Alors, il commence d'ailleurs par rouspéter, par râler. Et ensuite, il entend Dieu et il va obéir à Dieu. C'est un personnage absolument fascinant, pour moi décisif dans l'Ancien Testament. Je crois qu'il marque une charnière entre, je dirais, un Ancien Testament qui se confierait à l'émerveillement, à la merveille de Dieu, aux grandes images. Et tout à coup, cet homme nous dit, comme prophète, Dieu, c'est autre chose. Et ça se terminera, vous savez, dans Saint Jean, à la fin du prologue, Dieu, nul ne l'a jamais vu. Et Élie n'a pas vu Dieu, il l'a entendu. Et il s'est voilé la face devant un impalpable, un insaisissable, un invisible.
Pour ceux qui nous écoutent et qui parfois ont des difficultés à appréhender la Bible ou peut-être même ne l'ont pas encore appréhendée, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire?
J'ai envie de leur dire, écoutez, c'est une aventure qui vaut le coup, risquez l'aventure. Vous connaîtrez des moments de désolation, d'ennui. Il y a des pages somptueusement ennuyeuses dans la Bible, on peut le dire. Mais il y a aussi, quand on a pénétré dans ce livre, j'ai envie de dire, on n'en sort plus, quoi. On n'en sort plus, et c'est très bien comme ça, ne jamais en sortir.